je n'ai pas eu le droit de rentrer Arsenal ce jour-là pour mon expo. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un peu scandaleux d'ailleurs. D'ailleurs beaucoup de presse avait posé des appareils photos à ce moment-là, quand je suis bloqué à la porte. Ce qui s'est passé, c'est que Thalassa m'a filmé.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci. Dans
une nouvelle fois au Capucin, je rencontrais maintenant Dominique Leroux à l'occasion d'une exposition qu'il présentait sur place à deux pas de là où nous réalisions cette interview. Exposition photographique portée d'une part sur la construction du porte-avions Charles de Gaulle à Brest dans les années 90 et la déconstruction, d'autre part, de trois sous-marins Agosta par l'entreprise Navaléo aujourd'hui. Dominique Leroux est photographe, mais avant de l'être, il est passé par l'Arsenal. C'est lorsqu'il est en charge de la sécurité du chantier du Charles de Gaulle qu'il entame, sur le temps de ses congés, son travail photographique sur les ouvriers du porte-avions.
Je fais ce qu'on appelle l'école d'Arpette, hein, le FTN exactement, l'école de formation technique normale. Je suis entré, donc je sortais de 3e en 1975, donc j'avais une quinzaine d'années. J'ai commencé à travailler vraiment en tant qu'ouvrier en 1978. Je suis donc chez mon étolier, je travaille ce qu'on appelle le chantier dans la construction neuve des bateaux. J'ai fait du coup après 16 militaires, très mauvaise expérience. Et à mon retour, assez rapidement, je pars à Lille-Longue pendant 10 ans. J'ai travaillé 10 ans à Lille-Longue. J'ai quitté Lille-Longue pour faire 2 ans au service photo de l'Arsenal. Et j'ai quitté pour faire agent de sécurité du travail sur le porte-avions. Et là, j'ai quitté définitivement l'Arsenal pour devenir photographe professionnel. J'ai terminé, je suis devenu photographe professionnel en 1993.
Donc c'est en quelle année que vous intégrez le service photo de l'Arsenal ?
De 90 à 92.
Et en fait, comment est-ce que ça arrive ? Comment est-ce que vous arrivez dans ce service photo ?
C'est quelqu'un qui travaillait au service psychologique, là, qui donc faisait des entretiens, qui avait repéré que la photo était déjà ma passion. Je travaillais beaucoup dans le sport. À l'époque, je faisais du karaté, donc je photographiais beaucoup de gens de mon club. Mes frères étaient musiciens, avaient des groupes de rock qui commençaient à tourner, donc je commençais à photographier un peu les groupes de rock. Je commençais à travailler pas mal aussi avec le quartz. Je faisais des photos des générales de danse. Donc tout ça m'intéressait et ça se développait. Au fur et à mesure, ça se développait. Et à un moment donné, j'ai travaillé 2 ans au service photo là-bas. Mais je ne faisais pas beaucoup de photos. J'étais surtout ce qu'on appelait le microfilm. Je développais des microfilms, choses comme ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis parti en tant qu'agent de sécurité du travail.
Et en quoi consistait du coup le service en fait de photos ? C'était documenter le travail ?
Oui, il y avait vraiment deux photographes en permanence, plus un chef d'équipe, plus 2 secrétaires. Et il y a quelqu'un qui faisait aussi photos d'identité beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de photos d'identité à faire pour les badges. Et donc, c'était vraiment... il couvrait tout. Toutes les opérations, le suivi de chantier, les vies mystérielles, toute la vie d'Arsenal.
Donc, vous arrivez sur le chantier du Charles de Gaulle en 93 ou 92 ?
92.
Et alors, comme agent de sécurité du travail, quand vous vient l'idée du coup de vous photographier ce chantier ?
L'idée vient tout seul, hein. C'est quand je vois l'ampleur du chantier, je me dis que personne ne fait vraiment un travail sur les salariés, il n'y a pas de suivi. Et donc vraiment là je propose à mes supérieurs de faire les photos. Bon, je pense que c'est monté assez haut, peut-être qu'au ministère, hein. Je ne sais pas jusqu'à où c'est monté pour l'autorisation. Donc ils m'ont dit ok, mais bon, c'était congé payé évidemment, tu ne vas pas faire ça sous ton temps de travail. Donc là, j'avais obligation de tirer mon bleu de travail pour être en civil si on veut. Et donc voilà, je travaillais pendant 1 an comme ça, entre mon travail professionnel, le sécurité de travail et la photographie.
D'accord. Mais il n'y avait pas déjà du coup le service photo de la marine qui couvrait ce chantier ?
Ils ont énormément de travail, ils le couvraient évidemment, mais eux ils couvraient tout l'Arsenal, donc à deux. Donc ils n'avaient pas un travail, moi je connaissais les gens à bord, je connaissais bien les lieux. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de le faire. Et puis je voulais vraiment travailler sur les ouvriers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les métiers. C'était pas le bateau en tant que tel.
Section 5, give it a limit.
Justement, du coup, vous dites que vous connaissiez les ouvriers. Est-ce que, du coup, ce travail-là a été plus facile à réaliser dans cette relation entre vous, photographe, et les ouvriers qui, bah, sans doute, peut-être n'avaient pas l'habitude, du coup, de se faire photographier aussi pendant leur travail?
Ah, bien sûr, hein, ça aide beaucoup, hein, les gens. Après, moi, je suis au principe, même, je continue, je fais beaucoup de chantiers, je fais beaucoup de livres sur le monde du travail. J'ai un principe de base, c'est que si la personne ne veut pas, je ne fais pas de photos. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, ça marche toujours. Et puis, je pense que les gens aiment bien quand on valorise leur travail, parce qu'on n'en fait pas assez, hein, hélas. Et une telle dévalorisation du travail manuel depuis tellement d'années, à tous les niveaux, au niveau des écoles, des parents, tout le monde hein, a dévalorisé le travail manuel, que maintenant, la preuve, c'est que maintenant, ça se paye. Hein, toutes les entreprises cherchent du bon et n'en trouvent pas.
Et justement, c'est cette motivation-là de mettre en lumière ces métiers manuels qui plus est un peu de l'ombre puisqu'ils sont dans l'antre du bateau.
Ah oui, bien sûr, c'est intéressant. J'ai deux anecdotes assez qui m'ont vraiment aidé à continuer dans ce domaine-là. Il y a ce qu'on appelle un caréneur, je crois que tu vis d'ailleurs, là-bas. Parce qu'en fait, en plus de travail photographique, il y a eu deux émissions télé. Thalassa a fait une émission télé et Littoral. Et là, il y avait le son. Il y avait le bruit. Et il m'a présenté sa femme dans la rue, un peu par hasard. Et il me dit, tu vois, depuis qu'elle a vu le film, elle comprend pourquoi j'ai pas envie d'aller au supermarché le soir, pourquoi je suis crevé, pourquoi je suis fatigué. Et donc ça m'a vachement touché. Et la deuxième chose qui m'a touché, c'est le chef de projet, qui s'appelait Henri Brisson, qui était un polytechnicien, hein, qui gérait tout le projet porte-avions. Je lui ai donné les photos pour qu'il écrive un mot dans un livre. Et il m'a rendu les photos, il m'a dit un truc très simple, il m'a dit, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça aussi, ça m'avait d'un côté le polytechnicien qui comprend que c'est pas si facile que ça, et de l'autre côté, l'ouvrier qui prend de sa femme et qu'elle aussi comprend que... Et là, je me suis dit que ma photo était un acte politique, de certaine manière, au sens pur de la politique, hein, pas... et qu'il fallait continuer dans ce sens, ce que j'avais fait depuis tout le temps, mais maintenant encore.
Mais du coup, qu'est-ce qui motive, selon vous, vos supérieurs à accepter le fait que vous documentiez ce travail ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas là-dessus les réponses. À un moment donné, quand je fais le livre, ça, je pense qu'en tout cas, les services com, tout ça, je ne suis pas sûr que ces photos leur plaisaient beaucoup. Parce qu'ils voulaient montrer une image quand même plus technique, plus moderne. À l'époque, quand c'est la fibre optique, tout ça, je pense qu'ils voulaient aller plus vers là. Donc je ne sais pas exactement ce qui l'a motivé, en tout cas je remercie, ça c'est sûr.
Donc allez voir aujourd'hui les photos, on a la forte impression de voir des documents historiques, des photos qui témoignent d'un temps qu'on a l'impression révolu peut-être. Et justement en fait le chantier du Charles de Gaulle va marquer un peu la fin d'une période pour l'Arsenal. Est-ce que quand vous prenez ces photos, quand vous réalisez ce travail, c'est quelque chose qui se sait déjà et qui se ressent ?
Je sais pas, moi j'avais un peu ressenti ça parce que justement, ils donnaient des primes de départ pour les gens qui voulaient donc quitter l'Arsenal. Donc ils voulaient, on avait déjà l'impression qu'ils voulaient un peu écrémer. On sentait un peu ça. Donc quand j'ai pris avec moi, mes deux frères et moi, on est partis le même jour. On fait tous les trois les apprentis, on a quitté tous les trois le même jour. Eux sont devenus musiciens et moi je suis devenu photographe. Et enfin, ils sont déjà musiciens déjà. J'ai décidé, c'était bizarre d'ailleurs, j'ai pris ma décision. Mes frères avaient un groupe qui s'appelait Les Locataires. Et on tourne un clip en cinéma, donc avec caméra 35 mm, on avait des semi-remorques, on avait des grues, des lumas, enfin... On travaille vraiment, on fait un clip de pro. Et toute l'équipe, on devient vraiment tous copains. Enfin, il y a pratiquement, on a du mal à se séparer, même le dimanche soir. Et le lundi matin, je vais donc porte Caffarelli pour aller sur porte-avions. Et là, j'ai percuté parce que je crois que j'avais un petit problème. Mon badge ne tenait pas. Un genre à maritime m'a ennuyé pour ça. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, après ce que je viens de vivre pendant 4 jours, me retrouver par un petit mec qui m'emmerde parce que mon badge est décroché. Enfin, donc ça ne collait plus. Ça collait plus. Ce que je regrette peut-être quand même, c'est l'ambiance entre ouvriers. J'ai toujours gardé des copains, hein, pas mal. C'est quand même peut-être plus franc que certains milieux. Plus net, plus... Ça, c'est le seul regret. Les copains, c'est peut-être le seul regret. Et ouais, j'ai commencé à sentir, je pense, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Que l'outil commençait à diminuer, que voilà, il y avait une volonté.
Ça a impacté votre travail dans le porte-avions ou pas ?
Oh non, pas vraiment, non, ça n'a pas impacté, d'autant plus que moi je suis resté qu'un an sur porte-avions. Hein, enfin un an en tant qu'agent de sécurité de travail, puis je suis revenu une année faire des photos. Quoi. Donc, ce travail est à cheval entre mon année de professionnel sécurité du travail et mon année professionnelle photographe.
Et justement, comment est-ce que vous avez travaillé ? Du coup, ça s'est échelonné sur 2 ans, à peu près, et vous reveniez régulièrement pour documenter ?
Je reviens régulièrement avec un choix aussi de travailler sur les métiers de la coque. C'est-à-dire tous les gens, c'est-à-dire les tauliers, les soudeurs, les meuleurs, les caréneurs. J'ai pas commencé à entrer dans le après, ça devenait très compliqué. Après, vous savez, il y a l'aménagement, on monte des cloisons, voilà, il y a des sols, il y a des moquettes, du carrelage. Enfin, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Je suis resté que ce que je connaissais vraiment bien, le métier de la coque, que c'était mon métier.
Et ça se faisait par session, du coup ?
Oh, je ne me souviens plus exactement, mais je venais assez régulièrement, au moins une fois tous les 15 jours, tous les semaines, je ne me souviens plus, mais... Ouais.
Ce qui a dû donner énormément, du coup, de photos, également bien plus que ce qui est exposé là, non ?
Oui, bien sûr, bien plus, mais pas tant que ça, parce que ça me coûte un peu cher quand même de développer, donc on ne mitraillait pas, c'est peut-être plus au cadrage, peut-être plus de réflexion en fin de photo. Donc, oui, j'ai beaucoup de photos, mais pas non plus tant que ça, quoi. Et après, le problème, c'est que mes négatifs ont été un peu mal entreposés, ce qui fait qu'ils ont un peu été abîmés. Et là, j'ai sauvé à peu près 400 photos qui tiennent la route. Quoi.
Elles sont toutes en noir et blanc, en tout cas celles qui sont exposées là. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ça ?
Il y a un peu les deux. Il y avait le côté esthétique, il y avait aussi le côté, c'est que j'avais un labo photo. Donc je développais moi-même les films, je faisais moi-même les tirages papier, ce qui évidemment était économique. Ben, par la couleur. Et puis, bon, c'est toujours, pour ce qu'on fait du labo photo, le voir la photo se révéler, c'est toujours agréable. Quoi. C'est quelque chose. Donc voilà, c'est un peu les deux, ce côté esthétique et côté aussi économique, pratique. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça.
Ce travail-là est présenté à l'inauguration du Charles de Gaulle,
oui.
En 1994,
oui.
Avec notamment la présence de François Mitterrand. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment la réception d'un côté des édiles, des autorités, et de l'autre, la réception par justement ceux qui ont été photographiés.
Oui. Alors, vous êtes très étonné. Je n'ai pas eu le droit de rentrer à Arsenal ce jour-là pour mon expo. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un peu scandaleux d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de presse avait posé des appareils photo à ce moment-là, quand je me suis bloqué la porte. Ce qui s'est passé, c'est que Thalassa m'a filmé, voulait faire un reportage. Le réalisateur Thalassa me dit, écoute, tu passeras pas... Parce qu'il y avait un direct de vendredi. Souvent, je crois que c'était Drucker, je ne me souviens plus. Il y avait un direct. Non, c'était un Thalassa direct. Le vendredi pour l'inauguration. Et le réalisateur de Thalassa me dit, bon, écoute, je suis désolé, tu passeras pas là parce que la marine veut montrer un truc sur les missiles à Toulon, enfin, voilà. Mais il dit, c'est pas grave, ton histoire, on la passera dans un autre Thalassa plus tard, une semaine plus tard ou 15 jours plus tard. C'est pas daté, quoi. Bon, je dis pas de problème, ça pose aucun problème. Sauf que je rends le Thalassa direct, et qu'est-ce que je vois ? Il passe mon reportage et il supprime. Et là, évidemment, la marine n'attaque pas France 3. C'est moi qui subis les conséquences. Donc, j'avais 2 commandes, hein. Je serais pour Sillage à l'époque déjà, de la ville de Brest, et j'avais une commande du Télégramme aussi, j'ai 2 commandes, j'ai pas pu rentrer. Voilà. Donc, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, si Mitterrand a vu les photos, comment c'est passé. J'en ai aucune idée. Parce qu'ils avaient très mal pris à haut niveau que Thalassa parle de moi et pas de leur missile.
D'accord.
Okay. C'est un peu un scoop parce que très peu de gens les connaissent.
D'accord. Eh bien. D'accord.
Bonsoir et bienvenue depuis nos studios de France 3 à Brest. Nous sommes en direct. L'événement dans l'Ouest ce samedi, la mise à flot du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. À Brest, il y a un petit peu plus de 2 heures maintenant, le président de la République, François Mitterrand, et le Premier ministre, Édouard Balladur, ont assisté à cet événement en présence de 4000 invités. La mise à flot du Charles de Gaulle marque la fin des travaux de construction de la coque. Le Charles de Gaulle sera mis en service en 1999. Il faut donc encore 5 ans pour terminer l'équipement complet du bâtiment et armer le navire. Au cours de cette édition spéciale diffusée sur la Bretagne et les Pays de Loire, donc nous allons revenir sur le lancement du programme du Charles de Gaulle. La construction du Charles de Gaulle donc a commencé il y a 6 ans maintenant à l'arsenal de Brest. Depuis le début du chantier, les travaux ont parfois subi des retards au rythme des choix budgétaires des différents ministres de la Défense. Le porte-avions représente par ailleurs des millions d'heures de travail pour la DCN de Brest. Fange Brodigue.
Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle à l'arsenal de Brest aujourd'hui, c'est ça. Tout avait commencé le 24 novembre 1987, il y a 6 ans. Ce jour-là fut découpée la première tôle dans l'un des ateliers de la DCN. Un an et demi plus tard, la construction proprement dite entrait dans sa phase de réalisation. 2 premiers blocs de 200 tonnes sont posés dans le bassin. Après les États-Unis et l'URSS, la France est en effet la 3e puissance mondiale à se lancer dans la construction d'un porte-avions à propulsion nucléaire. Il faut remplacer le Clémenceau avant la fin du siècle. La pose de l'étrave en janvier 1991 est une date symbolique.
D'abord, l'étrave, c'est l'une des pièces les plus solides du bateau. Donc c'est, je dirais, le symbole de la solidité du programme. C'est également le symbole du bon déroulement de ce programme à Brest.
Les délais pourtant avaient déjà été allongés de 2 ans. Ils vont l'être à nouveau de plusieurs mois pour raison d'économie. Lorsque le bateau sort pour la première fois de son bassin en décembre 92, on voit mieux à quoi vont correspondre ces 275 mètres de longueur, ces 64 mètres de largeur et ces 75 mètres de hauteur. Avec la mise en place des turbo-alternateurs, l'installation des plateformes ascenseurs et du mât, le Charles de Gaulle est paré pour sa mise à l'eau à la fin de cette semaine. La mise en service est prévue pour 1999. En 12 ans, il aura fourni 13 millions d'heures de travail à l'arsenal de Brest.
Et donc aujourd'hui, ces photographies sont exposées ici au Capucin, qui est aussi un haut lieu du passé industriel de l'arsenal. Donc on a, est-ce qu'il y a, voilà, il y a quand même quelque chose qui est parlant dans ces photographies de mémoire ouvrière dans ce lieu, justement. Comment s'est fait cette exposition ici?
Ah ben, c'est fait grâce à 2 personnes, hein, Pierre Rolland de Navaléo et Alain Lelièvre, directeur des ateliers Capucin, de SPL. J'en ai parlé. En fait, Pierre, j'ai travaillé, donc j'avais une commande professionnelle sur la construction des 3 sous-marins. Et voilà, et au fur et à mesure des photos, on les trouvait vraiment bien. Et Pierre dit, ce serait cool de faire une expo. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, je vais voir, on peut faire ça. Je lui dis, ce serait quand même pas mal au Capucin, vu le lieu. Et j'en parle à Alain Lelièvre qui marche tout de suite. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de con. Si tu veux, ce que j'aime bien dans cette expo, c'est que c'est trois de mes, un peu ma vie, c'est-à-dire que ce côté ouvrier, le côté photographe professionnel, et côté amitié et brestois. Je trouve qu'à Brest, il y a vraiment une confiance, une solidarité qu'il n'y a pas dans d'autres villes. On travaille souvent sans contrat, sans rien, juste à la parole. Et donc tout s'est articulé comme ça. Et après, donc, j'ai commencé avec mon frère à dessiner une scénographie. J'ai appelé Marc Chaffaudage, qui sont partenaires, qui ont fait tout ça gratuitement. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est monté.
Et pourquoi décider de regrouper du coup ces 2 chantiers-là?
Alors, ça c'est important de le dire, ça se passe dans le cadre du festival Plus d'Images à Brest, qui aura lieu en janvier-février. Et le thématique du festival, c'est la mutation d'une ville, des gens, tout ça. Et du coup, ça collait bien, parce qu'on appelait ça inversion, parce que c'était une inversion entre la construction navale et la déconstruction maintenant. Je pense qu'il n'y aura plus de construction navale à Brest conséquente. Il y aura la réparation Idamen et il y aura la filière déconstruction qui est intéressante, hein, qui est très intéressante de Pierre Rolland, de Navaléo, donc qui emploie des gens, enfin, et qui est aussi un côté écologique. Là aussi, la scénographie, ce qui m'intéresse aussi en dispodage, c'est qu'elle a un côté écolo. D'habitude, on fait ça en bois, après le bois, on fout la poubelle. Là, ça sera démonté et réutilisé. Donc, c'est intéressant. Parce que le recyclage est vachement important pour moi. Parce qu'avant, les bateaux de guerre, où on les coulait, ou alors certains les emmenaient en Inde ou au Pakistan, où ils sont échoués sur les plages. Donc là, moi, il y a toute une filière avec des amiantages, enfin, protection. Je pense qu'il change aussi beaucoup ses conditions de travail, la sécurité, quoi. La sécurité ne sait plus rien avoir. Tant mieux. Tant mieux, hein, tant mieux que les ouvriers soient mieux protégés, tant mieux. Navaléo a construit ce qu'on appelle une salle blanche, c'est-à-dire qu'ils ont fait une salle blanche pour l'amiante, c'est-à-dire qu'on peut rentrer un bateau de 20 mètres dedans, le désamianter dans les conditions idéales, il y a le puits fine qui abat les fibres par terre, il y a les grandes ventilations, enfin, on peut travailler sans risque. Donc ça aussi, c'est à souligner. Ça, pour moi, c'est aussi la grande différence avec ce que j'ai vécu.
Et dans l'humain, ce qu'il y a, il y a aussi quelque chose de différent.
Pas vraiment. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que la solidarité, hein, je pense que quand on fait des métiers dangereux, même si on est en colère après son copain, même si on n'est pas content, on ne le laisse pas tomber. Et ça, j'ai retrouvé là, il y a une bonne équipe en Navaléo, ils ont une super équipe. Et je trouve que c'est vachement important. Et ils s'entendent vraiment bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un peu tout le milieu ouvrier. Hein. Hier, j'ai fait photo... pour Eiffage, hein, de 50 ouvriers qui font un bâtiment au CHU de Brest. Ben, c'est pareil, on sent... Et puis un mélange ethnique, c'est qu'il y avait arabe, noir. D'ailleurs, monsieur Zemmour, sachez que s'il n'y a pas noir et d'arabe, il n'y aura peut-être pas de bâtiment au CHU. Hein. Je crois que c'est vachement important, l'ambiance.
Et du coup, peut-être pour conclure, moi, j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait... que durant toutes ces années, donc depuis le Charles de Gaulle, vous avez mené ce travail sur ces métiers manuels, sur ces hommes qui construisent, déconstruisent.
Alors il n'y a pas eu que ça, hein. J'ai fait 180 portraits pour Eurovia. Eurovia, c'est les gens qui font les routes. J'ai fait un livre pour les 40 ans des hôtels Océania, c'est les gens, ben, tous les métiers hôteliers. Mon dernier livre, c'est sur les salariés de Brest Métropole Habitat, c'est-à-dire les gardiens d'immeubles, tout ça. Je me spécialise vraiment, on me demande vraiment de plus en plus de trésorerie du travail. De plus en plus, les entreprises veulent communiquer sur leurs salariés, leur savoir-faire, plus que sur leurs produits. Parce que d'une part, ils ont beaucoup de mal à embaucher, hein, ils ont très peu de jeunes à vouloir travailler dans ces milieux. C'est compliqué pour eux. D'ailleurs, de plus en plus, beaucoup de boîtes forment carrément les gens. Hein, c'est même une vraie réflexion à avoir, même si quand on parle des migrants, plutôt les laisser dans la rue à peut-être leur proposer de travailler, ce serait peut-être bien, avec un salaire évidemment correct. Hein. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion, et le Covid l'a tout révélé, c'est-à-dire que là actuellement, toutes les entreprises dans tous les milieux, et je dis bien tous les entreprises dans tous les milieux, cherchent du monde. Donc il faut vraiment se poser la question. Moi je pense d'abord qu'il y a un problème de formation en France, hein, la formation n'est pas bonne, le problème manuel. Je pense que les bacs pro, un peu compliqué aussi, je trouve. Je pense que les patrons préfèrent un bon CAP qu'un bac pro. Hein. Et puis la dévalorisation, dénigrement de travail manuel. On essaye de remonter, et puis moi par mes photos aussi, on essaye de revaloriser. Mais c'est pas facile. Et beaucoup de jeunes aussi veulent plus de CDI, veulent les CDD. Ce qui leur permet aussi d'avoir le mois de chômage, puis aller faire du surf en Australie. Enfin, après, moi, je peux les comprendre. Hein. Je critique pas, parce que c'est quelque chose que je peux comprendre. Donc voilà, c'est tout ça, tout cet ensemble fait plus d'autres choses. Hein. Parce que les salaires sont pas si mauvais que ça. Hein, quand je vois, je serais beaucoup dans la com, quelqu'un qui a fait 5 ans d'études en com n'a pas le salaire d'un ouvrier. Hein. Je pense pas que ce soit uniquement une histoire de salaire. À voir. Un appel aux jeunes.
Donc ça serait de leur donner envie d'aller dans ces métiers manuels aussi.
Ouais, je pense qu'il faut essayer. Après, rien n'empêche partir, ça ne plaît pas. Hein. Moi, je pense que, En plus, il y a toujours aussi l'histoire de la construction. Je vois là, hier, j'étais donc dans ce fameux bâtiment, qui est un gros bâtiment qui se fait au CHU de Brest. Je n'ai pas trop compris, je crois que c'est sur la cancérologie. C'est quelque chose qui sera vachement très utile. Et on voit que les gens sont assez fiers de travailler là. Quand on discute avec eux, on voit qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent à quoi ça va servir ce bâtiment, il va servir à sauver des gens, il va servir... Et on sent qu'il y a une fierté. Je m'imagine un peu comme les bâtisseurs de cathédrale à l'époque, quoi. Et puis là, c'est un bâtiment en plus architectueux, en niveau technique très compliqué. Il y aura du nucléaire, il y aura tout ça, donc il y a des murs d'un mètre de large. Je vois bien qu'il y a vraiment un truc qui se passe dans ce bâtiment. J'ai bien senti hier.
Peut-être qu'on pourra dire que votre travail n'est pas que du coup historique, c'est pas que documenter une mémoire, mais c'est aussi un pari pour l'avenir.
ce serait bien, ouais, ce serait bien. Moi, je me suis jamais senti artiste, hein, je suis, et j'ai beaucoup de frustration là-dessus. Moi, artiste, pour moi, c'est un créateur, moi, je ne crée pas, hein, je suis témoin, j'essaye de faire en mieux, mais... Non, j'essaie de faire en mieux, mais voilà. Mais je ne me sens pas obligatoirement artiste. J'essaie juste de cadrer, de donner de lumière, c'est de rendre des photos... Alors des fois, on reproche un peu aux photographes d'esthétiser un peu. Moi, j'essaie d'être naturel. Les gens ne sont pas malheureux, donc je ne vois pas pourquoi je les rendrais malheureux sur les photos. Et puis, on ne reproche pas à Zola d'avoir bien écrit Germinal. Hein.
Merci beaucoup.
Merci, Martin.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Nous vous informons que l'exposition de Dominique Leroux, intitulée « Inversion », est visible à l'étage des Capucins, passage des Arpètes, jusqu'à fin mars.
De la marine et de toutes nos petites chéries, on accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.